Comte de Gascogne par Jean-François Bladet. Extrait des Contes merveilleux des pays de France par Dagmar Fink. Sixième cassette, deuxième face. La fleur. Il y avait une fois un enfant qui n'avait plus ni père ni mère. Cet enfant s'appelait La Fleur. Il était déjà fort, hardi et avisé comme pas un. Jusqu'à 18 ans, La Fleur gagna sa vie comme il put. Alors il s'engagea dans les Dragons Dorés et s'en alla faire la guerre en pays étranger. 3 ans après, il revenait capitaine. Un jour, La Fleur était à Bordeaux et se promenait sur le port avec 2 camarades. À ce moment, passait dans sa voiture à 4 chevaux une jeune princesse, belle comme le jour. La belle princesse, cria La Fleur. Si j'étais assis près d'elle, je ne serais pas à plaindre. La princesse fit arrêter sa voiture. Dragon doré, qui de vous a parlé ? La Fleur n'osait pas répondre. Mais ses camarades parlèrent pour lui. Princesse, c'est La Fleur. La Fleur, tu ne sais pas où l'on m'emporte, dit la princesse. À t'asseoir près de moi, tu ne gagnerais rien de bon. Princesse, commandez, et je m'assieds. Non, La Fleur, adieu, nous nous reverrons. La voiture repartit plus vite que le vent, mais La Fleur ne revit pas la princesse et il devint triste, bien triste. Un jour, il alla trouver son général. Bonjour, mon général, il me faut partir pour un grand voyage. La Fleur, voici ton congé. Merci, mon général. La Fleur salua son général et sortit. 1 heure après, il partait à cheval avec son valet. Pendant 7 ans, ils coururent le monde, mais nul ne put leur donner des nouvelles de la princesse. Un soir, au coucher du soleil, La Fleur et son valet arrivèrent devant un grand château, dans un parterre plein de beaux arbres et de jolies fleurs. La porte était ouverte, le souper sur la table, et 2 lits prêts avec des draps blancs comme neige. Pourtant, il n'y avait personne au château. La Fleur s'attabla, soupa de bon appétit et alla se coucher. Son valet en fit autant. Au lever du soleil, tous 2 étaient debout et devisaient sous un laurier dans le grand parterre plein de beaux arbres et de jolies fleurs. Tout à coup, le maître entendit des plaintes sortir de terre. « Ah ! Ah ! Ah ! » « Entends-tu, valet ? » dit La Fleur. « Non, mon capitaine, je n'entends rien. »«
Ah ! Ah ! » « Ah !
Que me voulez-vous ? » répondit le capitaine. « La Fleur, je suis ta princesse. Voilà 7 ans passés qu'un méchant homme m'a enterrée toute vive. Pour me délivrer, tu souffriras pendant 3 nuits, mort et passion. Souffre et ne dis rien. Si tu pousses un seul cri, je suis perdu pour toujours. Princesse, vous serez obéie. » Le soir venu, La Fleur et son valet soupèrent de bonne heure et allèrent se coucher. Sur le premier coup de 10 heures, le capitaine entendit un grand bruit. Le méchant homme qui avait enterré la princesse toute vive sous le laurier arrivait avec ses gens.
Allons, mes amis, prenez ce rien qui vaille, jusqu'au premier chant du coq, traînez-le par les cheveux dans les escaliers du château. Nous verrons bien s'il souffrira sans rien dire, sans pousser un seul cri.
Du premier coup de 10 heures au premier chant du coq, les gens du méchant homme firent comme il avait commandé. Mais La Fleur souffrit sans rien dire et sans pousser un seul cri. Au lever du soleil, son valet le trouva presque mort sur le lit.
« Mon capitaine, qu'avez-vous ? »
« Je n'en puis plus. N'as-tu rien entendu cette nuit ? » ?»«
Non, mon capitaine. Cherche de quoi me soulager. »
Le valet obéit. Sur la cheminée, il trouva un pot d'onguent, une espèce de pommade, et en frotta son maître de la tête aux pieds. 5 minutes après, le capitaine était frais et gaillard comme pas un. Tous 2 descendirent dans le parterre plein de beaux arbres et de jolies fleurs. Sous le laurier, la princesse était sortie de terre jusqu'aux épaules.
« Merci, La Fleur, dit-elle. Tu as passé une triste nuit. Bientôt, tu souffriras davantage. Souffre et ne dis rien. » Si tu pousses un seul cri, je suis perdu pour toujours.
Princesse, vous serez obéie. Tous 2 rentrèrent au château.
Valet, n'as-tu rien vu? N'as-tu rien entendu sous le laurier?
Non, mon capitaine.
Le soir venu, la fleur et son valet soupèrent de bonne heure et allèrent se coucher. Sur le premier coup de 11 heures, le capitaine entendit un grand bruit. Le méchant homme qui avait enterré la princesse toute vive sous le laurier arrivait avec ses gens.
« Allons, mes amis, prenez ce rien qui vaille, coupez-lui le nez et les oreilles, et jusqu'au premier chant du coq, peignez-le avec un peigne de fer !»
Les gens du méchant homme firent comme il avait commandé. Ils coupèrent à la fleur le nez et les oreilles, et du premier coup de 11 heures au premier chant du coq, ils le peignèrent avec un peigne de fer. Au lever du soleil, son valet le trouva presque mort sur le lit.
« Mon capitaine, qu'avez-vous ? » ?»«
Je n'en puis plus. »
« N'as-tu rien entendu cette nuit ?»«
Rien, mon capitaine. » »«
Cherche de quoi me soulager. »
Le valet obéit. Sur la cheminée, il trouva un autre pot d'ongon et il en frotta son maître de la tête aux pieds. 5 minutes après, le nez et les oreilles avaient repoussé. Le capitaine était frais et gaillard comme pas un. Tous deux descendirent dans le parterre plein de beaux arbres et de jolies fleurs. Sous le laurier, la princesse était sortie de terre jusqu'aux genoux.
« Merci, la fleur, dit-elle, tu as passé une triste nuit. Bientôt tu souffriras davantage, mais pour la dernière fois. Souffre et ne dis rien. Si tu pousses un seul cri, je suis perdu pour toujours. »
« Princesse, vous serez obéie. » Tous deux rentrèrent au château.
« Valet, n'as-tu rien vu? N'as-tu rien entendu sous le laurier ?»«
Rien, mon capitaine. » Le soir venu, la fleur et son valet soupèrent de bonne heure et allèrent se coucher. Sur le premier coup de minuit, le capitaine entendit un grand bruit. Le méchant homme qui avait enterré la princesse toute vive sous le laurier arrivait avec ses gens.
« Allons, mes amis, prenez ce rien qui vaille, coupez-lui les jambes et les bras, embranchez le corps et faites-le cuire tout vif jusqu'au premier chant du coq. »
Les gens du méchant homme firent comme il avait commandé. Ils coupèrent à la fleur les bras et les jambes. Ils embrochèrent le corps et du premier coup de minuit jusqu'au premier chant du coq, ils le firent cuire tout vif.
Au lever du soleil, son valet le trouva presque mort sur le lit.
« Mon capitaine, qu'avez-vous ?»
Le capitaine ne répondit pas.
Alors le valet chercha de quoi le soulager. Sur la cheminée, il trouva un autre pot d'ongan et en frotta le corps de son maître. 5 minutes après, les bras et les jambes avaient repoussé. Le capitaine était frais et gaillard comme pas un.
Tous deux descendirent dans le parterre, plein de beaux arbres et de jolies fleurs. Sous le laurier, la princesse était debout, vêtue d'une robe couleur du soleil, une couronne d'étoiles dans les cheveux.
« Merci, la fleur, mes tourments et les tiens sont finis. Valet, va seller et brider les 3 meilleurs chevaux de l'écurie.
Princesse, vous serez obéie. » Tous 3 partirent et cheminèrent jusqu'au coucher du soleil. Alors ils s'arrêtèrent devant la porte d'un grand château.
« Écoute, la fleur, dit la princesse, voici 3 pommes rouges comme des coquelicots. Entre dans ce château. Les maîtres t'inviteront à souper et ils te feront boire du poison. Mais tu mangeras une de ces pommes rouges comme les coquelicots et le poison perdra tout pouvoir. Alors, rentre dans ta chambre. À minuit, je viendrai te chercher et nous irons nous marier dans le pays de mon père. Surtout, quand tu auras mangé la pomme, garde-toi de boire pour tant que la soif te tourmente.
Princesse, vous serez obéie. »
La princesse partit et le maître et le valet entrèrent sans peur ni crainte dans le château. Pendant le souper, les maîtres versèrent du poison à la fleur, mais il mangea une des 3 pommes rouges comme des coquelicots. Cela fait, il rentra dans sa chambre. Alors il se trouva pris d'une soif si terrible, qu'il oublia sa promesse et but un grand verre d'eau. Cela fait, il s'endormit d'un sommeil de plomb. Juste à minuit, la princesse arriva. La fleur dormait toujours.
« Valet, ton maître m'a désobéi. Dis-lui que je vous donne tout un an pour me trouver dans la ville aux 7 clochers. »
La princesse couvrit le visage de la fleur avec un mouchoir de soie bleue et partit. Au soleil levant, la fleur se réveilla.
« Mon capitaine, à minuit juste, la princesse est arrivée. Vous dormiez et elle a dit, « Valet, ton maître m'a désobéi. Dis-lui que je vous donne tout un an pour me retrouver dans la ville aux sept clochers. » Alors la princesse vous a couvert le visage avec ce mouchoir de soie bleue et elle est partie.
« Valet, nous allons payer ma faute bien cher. Partons pour la ville aux sept clochers. » Pendant un an moins un jour, tous deux coururent le monde, mais nul ne pouvait leur dire où était la ville aux sept clochers. Enfin, ils arrivèrent sur une haute montagne. Là est le château de l'homme vert qui garde les oiseaux, qui est le maître de toutes les bêtes volantes. « Bonjour, homme vert, ne pourrais-tu pas me dire où est la ville aux sept clochers ?»«
Mon ami, je ne puis pas, mais je vais questionner mes bêtes volantes. »
L'homme vert siffla trois fois. Aussitôt, toutes les bêtes volantes de la terre arrivèrent sur la montagne.
« Insectes, savez-vous où est la ville aux sept clochers ?»«
Non, homme vert. » »«
Papillons, savez-vous où est la ville aux sept clochers ?»«
Non, homme vert. » »«
Oiseaux, savez-vous où est la ville aux sept clochers ?»«
Non, homme vert. » »«
Aigle, sais-tu où est la ville aux sept clochers ?»«
Oui, homme vert. » »«
Aigle, je te commande d'y porter ces deux hommes sur le champ. »
« Homme vert, tu seras obéi, mais il ne faut pas que la chair crue me manque en chemin. »
Alors, l'homme vert saigna un mouton et l'écorcha.
« Aigle, voilà de la viande crue, pars !»
L'aigle chargea les deux hommes et la viande sur son dos et partit à toute volée.
D'heure en heure, il criait « De la viande crue, de la viande crue !»
Le mouton finit par y passer jusqu'aux os. Alors, la fleur et son valet aperçurent la ville aux sept clochers.
Mais l'aigle criait toujours « De la viande crue, de la viande crue !»
Que fit alors la fleur? Il tira son épée et coupa un morceau de sa cuisse.
« Tiens, aigle, voici de la viande crue. »
En cinq minutes, l'aigle les déposait devant la porte de la ville aux sept clochers.
« Mes amis, j'ai fait ce que l'homme vert m'avait commandé. Adieu. »
« Merci, aigle. »
L'aigle partit. Sur la grande place de la ville aux sept clochers, la fleur et son valet trouvèrent la princesse avec trois chevaux scellés et bridés.
« Allons, mes amis, en selle !»
Tous trois partirent au grand galop. Au coucher du soleil, ils étaient dans un pré sous de grands arbres. Là coulait une fontaine d'argent.
« Écoute, la fleur, dit la princesse, je n'ai pas de vivres à te laisser. Il te reste encore deux pommes rouges comme des coquelicots. Mange-les si tu veux, mais garde-toi de boire à la fontaine d'argent. À minuit juste, je reviendrai et nous irons nous marier dans le pays de mon père.
Princesse, vous serez obéie. La princesse partit et le maître et le valet s'endormirent sous les grands arbres. Une heure après, le capitaine se réveilla l'estomac vide. Alors, il mangea les deux pommes rouges comme des coquelicots.
Aussitôt, la soif le prit si terrible, qu'il but à la fontaine d'argent.
À la première lampée, il se rendormit comme un plomb.
Juste à minuit, la princesse arriva. La fleur dormait toujours.
« Valet, dit-elle, ton maître m'a désobéi, mais toi, tu fais ce qu'on te commande. En paiement de tes services, voici un mulet chargé d'or.
Quand ton maître se réveillera, dis-lui que je lui donne jusqu'à demain midi pour me trouver au pays où soufflera le vent d'autan. »
A-U-T-A-N. Princesse, vous serez obéie.
La princesse passa un anneau d'or au doigt de la fleur endormie, lui couvrit le visage avec un mouchoir de soie rouge et un mouchoir de soie blanche, et partit.
Au soleil levant, la fleur se réveilla.
Mon capitaine, à minuit juste, la princesse est venue. Vous dormiez et elle a dit « Valet, ton maître m'a désobéi, mais toi tu fais ce qu'on te commande. En paiement de tes services, voici un mulet chargé d'or. Quand ton maître se réveillera, dis-lui que je lui donne jusqu'à demain, à midi, pour me trouver au pays où soufflera le vent d'autan. »
Alors, la princesse vous a passé cet anneau d'or au doigt. Elle vous a couvert le visage avec ce mouchoir de soie rouge et ce mouchoir de soie blanche, et elle est partie.
Valet, ma faute nous coûtera cher. Selle et bride nos chevaux et partons pour le pays où le vent d'autant soufflera demain.
Mon capitaine, nos chevaux se sont échappés. Nous n'avons plus que le mulet chargé d'or.
Tous deux partirent à pied, chassant devant eux le mulet chargé d'or. 2 heures avant le coucher du soleil, ils arrivèrent au bas d'une montagne si raide, si haute, que ni les deux hommes ni leurs bêtes n'y pouvaient monter. À ce moment, passait une femme noire comme l'arbre et vieille comme un chemin.
« Bonsoir, mes amis. Voulez-vous que je vous tire de peine ?»«
Toi, pauvre vieille, et que peux-tu faire pour nous ?»
La femme noire comme l'âtre et vieille comme un chemin souffla. Aussitôt, tous trois se trouvèrent emportés avec le mulet chargé d'or sur le sommet de la montagne.
« Mes amis, je suis la mère des vents. Mes enfants sont en voyage. Moi, je les attends 1 heure après le coucher du soleil. Mais je n'ai rien pour les faire souper et j'ai peur qu'ils ne me battent. »
« N'aie pas peur, mère des vents. Tiens, voici 100 écus. Va vite acheter de quoi souper. »
« Merci, mes amis. Entrez dans ma maison. Moi, je vais chercher des vivres. »
5 minutes plus tard, la mère des vents rentra chargée de pain, de viande et de vin. Pendant que les casseroles et la broche menaient leur danse, la vieille dit à la fleur et à son valet.
« Mes amis, mangez, buvez, vite. Et retirez-vous dans cette chambrette. Mes fils vont rentrer, je ne veux pas qu'ils vous voient. »
Mère des vents, tu seras obéi. Un quart d'heure après, ils entendaient un vacarme d'enfer. C'étaient les vents qui rentraient de leur voyage.
À table, mes fils, vous ne me battrez pas ce soir.
Les vents s'attablèrent en riant.
Ah ah, mère, quelle soupe! Ah ah, quel fricot! Et quel vin, mère, quel vin!
Au rôti, les vins étaient en joie et trinquaient.
« À votre santé, mère !»«
À votre santé, mes enfants !»« Que fais-tu demain, vent de Bayonne ?»«
Demain, je vais souffler sur la mer grande et faire perdre force navire. »«
Et toi, vent de Bise ?»«
Moi, je vais souffler sur la ville de Paris. » Et secouer comme il faut le Louvre, le palais du roi de France.
Et toi, vent du Nord?
Moi, le pape aura de mes nouvelles. Je vais souffler sur la ville de Rome.
Et toi, vent d'Otan?
Moi, je vais souffler sur la ville de Jérusalem et briser les grands arbres en terre sainte.
Le maître et le valet écoutaient, cachés dans la chambrette.
Ah, ceci est bon à savoir.
Au souper fini, les vents ôtèrent leurs manteaux, leurs grandes bottes et allèrent se coucher. À minuit, ils étaient debout. Alors la fleur et son valet dirent au vent d'Autan. « Bonjour, vent d'Autan. Veux-tu de quoi faire longtemps la fête avec tes frères comme hier soir ?»«
Oui, certes. »
« Eh bien, vent d'Autan, voici un mulet chargé d'or. Il est à toi si tu nous emmènes à Jérusalem. »
« Pauvres gens, vous ne pourrez jamais me suivre. »
Vent d'Autan, ceci nous regarde.
« Eh bien, partons. Le temps de cacher mon or et de chausser mes grandes bottes. »
Pendant que le vent d'Autan cachait son or, la fleur et son valet sautèrent chacun dans une de ses grandes bottes. Il n'était que temps. Le vent d'Autan se chaussa.
« Maître, valet, y êtes-vous ? » ?»«
Oui, oui. » Le vent d'Autan partit à travers les nuages. 20 fois par heure, il criait.
« Maître, valet, y êtes-vous ? » ?»«
Oui, oui !» À la pointe de l'aube, le vent d'Autan se posa sur le toit du plus beau château de la ville de Jérusalem. C'était là que demeurait la princesse. La fleur et son valet sortirent chacun de leurs bottes. « Vent d'Autan, encore un service. Arrache un contrevent et casse une vitre dans la chambre de la princesse. »
« Mes amis, voilà qui est fait. »
« Merci, vent d'Autan. » Le vent d'Autan partit. Alors la fleur regarda par la vitre cassée dans la chambre de la princesse. Elle dormait. La fleur jeta les 3 mouchoirs de soie sur son lit. En se réveillant, la princesse aperçut les 3 mouchoirs et pensa. « Bon, la fleur est ici.
Nous avons fini de souffrir. Déjà, la fleur et son valet couraient les rues de Jérusalem. Toutes les cloches sonnaient, les rues embaumées de fleurs. Les maisons étaient tendues de draps blancs, comme pour la procession de la fête de Dieu. Braves gens, que se passe-t-il donc en votre ville ? Étrangers, aujourd'hui, l'archevêque de Jérusalem marie le roi d'Angleterre à une princesse belle comme le jour. Entre dans cette église. Tu y verras quelque chose qu'il vaut la peine de regarder. Dans l'église, le roi d'Angleterre attendait, entouré de ses parents et de ses amis. La fleur alla s'asseoir à 10 pas de lui. Enfin, la princesse arriva, son parrain à sa droite, sa marraine à sa gauche, suivie de ses parents et de ses amis. Elle arriva vêtue de blanc, couronnée de fleurs d'oranger. Son premier regard fut pour la fleur. Déjà, l'archevêque de Jérusalem, avec son diacre et son sous-diacre, était au pied du maître-autel pour chanter la messe du mariage. Alors la fleur parla. Archevêque de Jérusalem, écoutez. Archevêque de Jérusalem, je m'appelle la fleur. Archevêque de Jérusalem, je viens annoncer l'empêchement du mariage de la princesse avec le roi d'Angleterre. La fleur, cria le roi d'Angleterre, il n'y a pas d'empêchement. Mais l'église n'est pas faite pour les disputes. Sortons et faisons bataille. Roi d'Angleterre, je suis à ton commandement, répondit la fleur. Pourtant, la paix vaut mieux que la bataille. Je parlerai, tu répondras. Archevêque de Jérusalem, jugez-nous. La fleur parle, dit le roi d'Angleterre. Je répondrai. Archevêque de Jérusalem, jugez-nous. Roi d'Angleterre, j'ai rendu service à la princesse. En paiement, elle m'a donné 3 mouchoirs de soie. Un blanc, l'autre bleu, l'autre rouge. Si je veux les garder, peut-elle me les reprendre ? Non, la fleur. Ce qui est donné est donné. Ce qui est promis est promis. Roi d'Angleterre, c'est bien dit. Mais tu t'es condamné toi-même. La princesse a les 3 mouchoirs de soie parce qu'il m'a plu de les lui rendre. Mais en paiement de mes services, elle m'a fait aussi promesse de mariage. Cette promesse, il me plaît de la garder. Princesse, dit l'archevêque de Jérusalem, la fleur a-t-il dit la vérité ? Archevêque de Jérusalem, répondit la princesse, la fleur a dit la vérité. En paiement de ses services, je lui ai donné 3 mouchoirs de soie, l'un bleu, l'autre blanc, l'autre rouge. Ces mouchoirs, je les ai parce qu'il lui a plu de me les rendre. Je lui ai fait aussi promesse de mariage. Cette promesse, il la garde et j'en ai le cœur content. Archevêque de Jérusalem, jugez-nous. « Roi d'Angleterre, dit l'archevêque de Jérusalem, tu as tort. » Archevêque de Jérusalem, dit le roi d'Angleterre, c'est vrai. Je me suis condamné moi-même. La princesse est à la fleur. Archevêque de Jérusalem, chantez pour eux la messe de mariage. La messe dite et la noce faite, la fleur ramena la princesse dans son pays. Ils y vécurent longtemps heureux. Fin de l'histoire de la fleur. Fin de la 2e face de la 6e cassette des Contes de Gascogne par Jean Bladé. Extrait des Contes merveilleux des pays de France de Dagmar Fink. Laisse la cassette se dérouler jusqu'au bout. Il y a une 7e et malheureusement dernière cassette. À bientôt.